bienvenue dans la cathédrale Saint-Pierre. Notre prière va terminer cette journée de reconnaissance pour les 150 ans de la Croix-Rouge. Nous sommes rassemblés pour prier pour la Croix-Rouge, pour le travail humanitaire sur toutes ces formes. Nous sommes ici dans ce lieu tellement symbolique pour prier ensemble. Chrétiens, musulmans, juifs, Bahaï, nous sommes ici avec un sentiment de fraternité et de remerciement pour tout le travail humanitaire. Cette heure est donc présidée par le membre de l'appel spirituel de Genève. Donc, pour l'instant, j'ai l'honneur d'être le président. Il y a ceux de nos membres qui ne sont pas avec nous ce soir. Il y a l'évêque Pierre Farin. Il y a Gary Vachikouras de l'Église orthodoxe. Il y a Walter Higuer qui travaille dans la diplomatie de la Suisse. Il y a Madame Tatiana Darani de la Fondation pour Genève, qui n'est pas avec nous, et M. Rafi Guardieri, qui est en Pologne, mais qui a envoyé M. Hamann pour le remplacer. Vous êtes le bienvenu. Alors, avec nous aussi, nous avons le plaisir et le privilège d'avoir Mme Élise Kairis, le pasteur Emmanuel Roland, qui n'est pas membre de l'appel non plus, mais qui, je pense, est cœur et âme avec nous, et Monseigneur Charles Morello. Monseigneur, vous êtes le bienvenu avec nous dans cet endroit. Alors, l'appel spirituel de Genève était signé en 1999. C'était une initiative de gens de bonne foi de plusieurs religions d'écrire un texte pour la Journée des Nations Unies en 1999. L'inspiration venait de l'ambassadeur Walter Higuer, qui était impressionné par l'acte de souvenir que nous avons organisé dans cette cathédrale pour les victimes du vol 111 en 1998. Alors, nous étions déjà tellement soucieux au sujet de l'utilisation de la religion dans les conflits de notre temps que nous avons écrit ce texte. Personnellement, je pense que c'est un texte merveilleux. C'était Monseigneur Damaskinos de l'Église orthodoxe qui a trouvé le titre comme l'appel spirituel de Genève. À ce moment-là, il me semblait important. Mais depuis 1999, le 11 septembre, la guerre en Iran, la guerre en Afghanistan, conflit après conflit, où malheureusement, ce qu'on appelle la religion fait partie de l'identité des peuples et quelque part fait partie des conflits. Notre monde a besoin de notre texte. Nous, on pensait faire ça pour une seconde. On ne se rendait pas compte de l'importance de ce qu'on était en train de faire. Mais c'est le texte pour notre temps. Et c'est le texte de toutes les grandes religions qui sont présentes à Genève. Alors, merci de venir avec nous pour cette heure de prière, de méditation et de musique ce soir.
Parce que notre religion, nos convictions personnelles ont en commun le respect de la dignité de la personne humaine. Parce que nos religions, nos convictions personnelles ont en commun le refus de la haine et de la violence. Parce que nos religions, nos convictions personnelles ont en commun l'espoir d'un monde meilleur et juste. Nous, représentants des communautés religieuses et représentants de la société civile, demandant aux décideurs planétaires, quel que soit leur champ d'action, de respecter de manière absolue les trois préceptes suivants. Premièrement, ne pas invoquer une force religieuse ou spirituelle pour justifier la violence, quelle qu'elle soit. Deux, ne pas se référer à une force religieuse ou spirituelle pour justifier toute discrimination et exclusion. 3. Ne pas user de sa force, de sa capacité intellectuelle ou spirituelle, de sa richesse ou de son statut social pour exploiter ou dominer l'autre. Notre appel, qui s'inscrit dans la tradition d'accueil, d'asile et de compassion de Genève, est ouvert à toute personne dont les convictions s'accordent avec les présents de monde.
Because our personal convictions or the religions to which we owe allegiance have in common a respect for the integrity of humankind. Because our personal convictions or the religions to which we owe allegiance have in common a rejection of hatred and violence. Because our personal convictions or the religions to which we owe allegiance have in common the hope for a better and more just world, representing religious communities and civil society, we appeal to the leaders of this world, whatever their field of influence, to strictly adhere to the following three principles. A refusal to invoke a religious or spiritual power to justify violence of any kind. A refusal to invoke a religious or spiritual source to justify discrimination and exclusion. A refusal to exploit or dominate others by means of strength, intellectual capacity, or spiritual persuasion, wealth, or social status. Grounded in the Genevan tradition of welcome, refuge, and compassion, our appeal is open to all whose convictions are in accordance with these three demands.
Tu redresses ce qui est courbé. Aux extrêmes de toute souffrance, tu as voulu prendre ta place. Émerge du fond de nos tourments ta vie, plus forte que nos morts. Et que vienne cette paix, cette insondable paix qui fait le tour des choses, qui fait le tour des mondes. Il vient le jour, ô ce jour, qui emportera nos temps dans le cœur de ta paix. Et notre reconnaissance monte maintenant vers toi. Merci de pouvoir, en ce jour et en cette heure, partager le même désir de paix. Amen.
Que nous sommes recueillis en priant à l'occasion de l'anniversaire de la croix rouge, nous sommes amenés par le fait même à réfléchir à la relation entre la dimension que l'on pourrait appeler proprement religieuse ou spirituelle et la dimension sociale de nos traditions religieuses. Parmi les chrétiens, en tout cas, même, je ne crois pas seulement, je ne me permets pas de parler au nom des autres religions, mais je crois que vous pourriez le confirmer lorsque vous savez ce que je veux dire. Certains tendent à mettre l'accent de manière unilatérale, soit sur la dimension sociale, soit sur la dimension spirituelle, ou à insister de manière prioritaire sur une de ces dimensions. C'est un fait. Mais je crois que c'est un fait regrettable, car les deux devraient être unis pour se renforcer mutuellement et s'appuyer. Dans toutes nos religions, il y a des traditions de prière, bien sûr, et aussi des traditions d'aumône, par exemple. D'ailleurs, si je me réfère à notre tradition chrétienne, je pense à Saint Jean disant: quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. En d'autres termes, à cause de Dieu, nous sommes portés aussi à aimer les créatures. Eh bien, cela était très présent dans la vie d'Henri Gourdon et même les gens de la vie de sa famille. On le voit du fait même qu'il a appelé son œuvre humanitaire Croix Rouge ou qu'il a participé à la charte du mouvement Moyen Signalé par exemple. Et alors, qu'arriverait-il si la dimension sociale devait subsister sans aucune dimension spirituelle pour autant que ce soit possible? On peut se poser une question à ce propos. Vous savez peut-être qu'en 2011 a été publiée une étude sociologique sur la religiosité des chrétiens en Suisse. Cela se centre sur les chrétiens, mais concerne aussi d'autres. Et ce qui nous sortait de cette étude, c'est que le groupe le plus nombreux de la société se considère comme étant à distance des institutions chrétiennes, mais se dit que tout de même ils peuvent rendre service parce qu'ils aident les personnes dans le besoin. Bien, c'est une forme d'approbation. Mais les auteurs de cette étude sociologique disent, ces gens se demandent-ils dans quelle mesure cette dimension sociale qui nous tient à cœur subsisterait comme telle sans la dimension proprement religieuse. En d'autres termes, si je vois ma vie dans la perspective des 70 à 80 ou un peu plus années que je pourrais avoir à ma disposition et que je crois qu'il n'y a rien ensuite, est-ce que cela ne change rien à mon attitude sociale? Je pense que si, mais plutôt que de dire moi-même, je voudrais citer un athée militant italien, Paolo Floresta Kaiser, ne pas voler ces termes sans lui en rendre la propriété, qui parle de l'agir commun de croyants et incroyants pour le bien commun de la société. Et il dit, c'est évidemment souhaitable. En effet, c'est souhaitable. Croyants et incroyants, ou croyants de différentes religions, nous désirons travailler ensemble pour le bien commun de la société. Et Paolo Flores d'Arcaes disait en 2000 en l'occurrence, cela pose une question aux uns et aux autres. Nous avons tous une difficulté à cet égard. Alors, étant italien, il pense avant tout au poids de l'Église catholique et de la société italienne, et il dit, ils ont toujours tendance à essayer de nous dicter leurs lois sur la vie de la société. Et il dit, quant à nous, athées, c'est lui qui dit, pas moi, quant à nous, athées, nous avons un autre problème. Il est difficile de concilier solidarité effective et primale de moi, parce que cela peut impliquer de se sacrifier. Le bien commun, aider les autres. On imagine ceux qui vont sur un champ de bataille pour ramasser les blessés. Ils risquent leur vie. Eh bien, Paolo Flores d'Arcaes dit, c'est plus difficile quand on pense qu'il n'y a rien après la mort. Voilà notre difficulté. Il relève donc deux choses. L'une, la dernière, que s'il n'y a pas de dimension religieuse, le service du bien commun est plus difficile, parce qu'on risque d'avoir une perspective limitée à l'horizon de cette vie. Et du fait, il faut bien que je pense à moi. Ce n'est pas une précédence inévitable, mais aussi. Il dit aussi quelque chose qui l'indique le résident de l'Église catholique, qui peut nous concerner aussi de manière plus générale, la crainte qu'une religion ou l'ensemble des religions veut édicter leur loi à la société. Eh bien, pour que nous puissions suivre les traces d'Henri Dunant, par exemple, servir le bien commun dans la société, nous devons tenir compte à la fois de l'opportunité d'une dimension religieuse qui anime l'engagement social, et puis de la crainte que nous pouvons suggérer avec cette dimension religieuse qui serait de vouloir imposer notre loi à l'ensemble, voire évidemment de nous disputer entre nous. Si nous y songeons et que nous voulons un avenir d'initiative comme celle de la Croix, voire le surgissement d'autres initiatives semblables, toujours tellement nécessaires, nous nous trouvons face à un bon défi, qui est le défi de notre époque. qui est un des défis qu'il a vraiment intéressant, de maintenir le don de soi indispensable à la société avec son ressort religieux, en intégrant ce ressort religieux dans une société pluraliste, où il y a plusieurs religions et il y a des non-croyants aussi. Et c'est en maintenant tous ces éléments ensemble que sans doute nous pouvons nous montrer de diviser les héritiers dans les clients et servir à la société et en particulier ceux qui souffrent le plus.
Nous prions. Des profondeurs, nous crions vers toi, Seigneur. Écoute notre appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de notre prière. Nous ne savons pas de mystère, mais tu as un cœur. Toi qui cherches le Fils perdu et qui tiens contre toi cet enfant difficile qu'est le monde des humains. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les personnes qui cherchent à vaincre la violence, la haine et la peur. Accompagne ceux qui travaillent sans relâche et parfois au péril de leur vie pour soulager la détresse et des plus démunis. Multiplie pour eux les gestes de miséricorde. Augmente en nous la confiance, l'espérance et la charité, afin que par nos voix et par nos gestes, nous puissions à notre tour t'annoncer et œuvrer pour la paix. Soutiens notre marche par ta présence et ton amour, guidé par ton Fils Jésus-Christ et animé par ton Esprit. Laisse monter vers toi le murmure de notre prière et fais descendre sur nous ta paix. Amen.
Torah, le Pentateuque. Nous trouvons ce verset au livre du Lévitique, chapitre 19, verset 16. Lot amod al dam re'echa, qui peut se traduire ainsi, tu ne resteras pas immobile sur le sang de ton prochain. C'est peut-être en pensant à ce verset qu'Henri Dunant eut l'idée de créer la Croix-Rouge. Doit-on considérer cela comme une idée géniale, ou simplement comme une idée humaine, ou humaniste? La Bible nous rappelle que nous sommes tous nés d'un couple fondateur, Adam et Ève. Non parce que nous croyons qu'il en fut ainsi, mais parce que l'existence de ce couple, tel que cela nous est relaté dans le livre de la Genèse, fondement de la tradition juive et de la tradition chrétienne, parce que cette image nous rappelle que nous sommes tous les descendants d'une humanité une et indivisible, et que le sang de chacun de nous est le même que celui de tous. Lota amod, Adam re'echa, tu ne resteras pas immobile sur le sang de ton prochain. Le prochain est donc mon alter ego. Et la Torah insiste sur ce point et nous relate un autre récit. Lorsque Caïn et Abel se font face, impuissants qu'ils sont à partager sans violence les biens que Dieu leur a donnés, ils en arrivent aux mains. Le dire rabbinique nous décrit Abel serrant la gorge de son frère. Il est prêt à l'étouffer. Mais rencontrant le regard désespéré de Caïn, il desserre son emprise et se lève. Il tourne alors le dos à Caïn et celui-ci, hors du regard de son frère, saisit une pierre, la lance vers Abel qui, frappait à la tête, s'effondre. Le regard de l'autre me rappelle notre humanité commune. Deux frères, pourquoi? Pour nous dire que tout meurtre est un fratricide. Deux militaires qui se font face, chacun sous son drapeau, sont frères. Mais ils l'ont oublié. Si ces deux militaires se regardaient dans les yeux, face à face, s'ils découvraient l'humanité de l'autre, ils découvriraient certainement l'identité qui existe entre eux. Si leurs yeux se dessillaient, ils verraient au-delà de l'uniforme qui identifie l'autre comme un tout autre, que ce tout autre est son semblable, est son frère. Le réafra, le prochain, est le semblable. Le réafra est un frère dont le sang irrigue son corps comme le sang irrigue le corps de tous les humains, toutes portant un reflet divin. Lota amod al dam re'echa, tu ne resteras pas immobile sur le sang de ton prochain. Les délégués de la Croix-Rouge et leurs collaborateurs mettent en pratique ce verset de la Torah. Que grâce leur soit rendue.
Yeah.
Platon écrit et signé l'appel spirituel de Genève dans sa cathédrale avec les membres de toutes les grandes traditions à Genève et les membres de la société civile. Nous avons commencé une aventure qui est beaucoup plus jeune que l'aventure de la Croix-Rouge, mais notre travail était dans la tradition humanitaire de Genève. Ce que nous avons trouvé, c'est que nos religions étaient très différentes les uns des autres. Mais nous avons trouvé deux choses d'une importance totale. La première, c'est que nous avons beaucoup de plaisir à prier ensemble. Dans le sens que nous croyons chacune et chacun que Dieu écoute toutes les prières. Et la deuxième chose que nous avons trouvée, c'est que notre vision de la justice et de l'éthique était exactement pareille. Qu'est-ce qu'il y a d'autres que les traditions religieuses comme base pour le travail humanitaire? Il y a les 10 commandements. Le fait de ne pas tuer son voisin. Et avec l'autre côté de ce commandement, c'est qu'il faut tout faire pour faire vivre son prochain. Il y a la justice sociale et économique, avec ses bases dans le prophète Esaïe. De quel droit, Esaïe demandait, écrasez-vous la face des pauvres? Et puis, la règle d'or, dont nous avons tellement parlé aujourd'hui. Le besoin de sortir de soi-même, de regarder l'autre, de chercher le bien de l'autre et d'aimer son prochain comme soi-même. Les paroles de Jésus, les actes de Jésus, la tradition de charité, le zakat, dans la tradition musulmane. Toutes nos traditions sont la base de l'humanité. Mais pour nous, le soutien de l'humanitaire n'est pas une option. C'est un besoin. C'est une nécessité. Ce n'est pas une chose à prendre ou à laisser. C'est nos religions qui soutiennent l'humanité. Nos religions sont la base de l'humanité. Mais pour nous, cette base de l'humanité, c'est à faire avec notre monde et franchement, si nous avons bien compris avec le monde à venir, regardez notre monde. Avec la haine, la violence, les injustices et les tueries. Si vous voyez un autre espoir que le travail humanitaire, soutenu par les grandes religions. Moi, je ne vois pas. Alors, je dis merci à Dieu pour la Croix-Rouge. Et je dis merci à Dieu pour les femmes et les hommes de toutes les grandes religions qui travaillent ensemble pour la paix, la justice et la tolérance. Amen.
Chers sœurs, chers frères, bonsoir. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Permettez-moi de commencer par partager une assez grande émotion que je vis en ce moment, accueillie par vous dans ce lieu, en compagnie d'une maman musulmane, d'une grand-maman chrétienne, moi-même étant originaire d'un vieux quartier juif d'Alep, en Syrie. Mesdames et messieurs, chères sœurs, chers frères, je crois en Dieu, je crois en l'avenir et je crois en l'être humain. Cette profession de foi est d'ailleurs une possible définition de l'humanisme du XXIe siècle. De plus, j'affirme en tant que musulman aimer le progrès, la nouveauté, le cheminement vers et pour le meilleur. Dieu lui-même n'enjoint-il pas les femmes et les hommes à changer individuellement et collectivement dans un esprit de solidarité? Pour construire un monde meilleur, nous devons œuvrer les uns avec les autres et non les uns contre les autres. Dieu dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin, hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. En vérité, Dieu ne change point l'état d'un peuple tant que les gens, le composant, ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Pour que le monde change, il faut que nous changions d'abord. Il faut que nous nous réhumanisions. Merci à la Croix-Rouge internationale et au Croissant-Rouge international de faire ce qu'ils font pour secourir ceux qui subissent les affres de la guerre. Avec vous, je prie Dieu de faire de nous des serviteurs de la paix et de son humanité. Avec vous, je prie Dieu de faire de nous des êtres capables de courir au secours des autres, partout dans le monde, afin de les aider à vivre dans la liberté, le respect et la dignité. J'appelle de mes voeux pour que la Croix-Rouge internationale et le Croissant-Rouge international ne soient pas là seulement pour aider les gens à survivre en plein chaos, mais surtout pour les aider à vivre dans la paix, en barrant la route aux faiseurs de guerre. Merci. Thank you.
croyons en un tout créateur qui fait de nous tous des frères et des sœurs, créés à l'image de Dieu, l'humanitaire, en tant qu'action solidaire, est en effet un impératif inséparable de la foi. Les œuvres doivent être l'expression de la foi. L'humanitaire est action, donc, non pas seulement exotique et lointaine, mais aussi proche. C'est bien des paysans africains, c'est encore mieux de ne pas négliger ses vieux parents et ses enfants handicapés. L'humanitaire n'est pas simplement aide matérielle, mais aussi et d'abord respect de l'autre dans son individualité, dans sa communauté et dans sa spiritualité. On ne peut pas imposer son aide. On doit d'abord écouter et donner selon les besoins exprimés par l'autre, dans une attitude de respect de sa dignité et de sa liberté. Et ce respect, c'est aussi de reconnaître que nous pouvons tous apprendre les uns des autres les meilleures pratiques de solidarité, plutôt que de vouloir imposer certains modèles occidentaux contemporains d'aide dont on perçoit déjà les limites, voire les impasses. Enfin, l'humanitaire n'est pas simplement physique. Il n'a pas seulement besoin de finances et de secours matériels. Comme lorsque les Israélites se battaient dans la plaine, Moïse sur la montagne, aidé de son frère Aaron, priait et permettait la victoire. Les humanitaires d'aujourd'hui ne sauront pas pouvoir reconnaître, mais la prière, la leur et celle des autres dans leurs monastères et dans leurs assemblées, leur permettra d'accomplir les miracles qu'on leur demande de plus en plus de réaliser.
Ô mon Dieu, en vérité, je t'invoque et te supplie devant tout seul, te demandant de faire pleuvoir toutes tes bénédictions sur ces âmes. Désigne-les spécialement pour recevoir tes faveurs et ta vérité. Ô Seigneur, unis et relis les cœurs, établis la concorde entre toutes les âmes et réjouis les esprits par les signes de ta sainteté et de ton unité. Seigneur, fais rayonner ces visages par la lumière de ton unité. Fortifie les mains de tes serviteurs au service de ton royaume. Ô Seigneur, toi le possesseur d'infinie miséricorde, Seigneur de grâce et de rémission, pardonne-nous nos péchés et nos défauts et dirige-nous vers le royaume de ta clémence, invoquant le règne du pouvoir et de la puissance, humble devant ton sanctuaire et soumis devant la gloire de tes rois. Ô Seigneur Dieu, rends-nous semblables aux vagues de la mer, aux fleurs du jardin, unis en accord par la grâce de ton amour. Réjouis les cœurs par les signes de ton unité et rends les âmes semblables à des étoiles resplendissant des mêmes sommets de gloire, à des fruits de choix mûrissant sur l'arbre de vie. En vérité, tu es le Tout-Puissant, l'Absolu, le Généreux, l'Indulgent, le Magnanime, l'Omniscient, l'unique Créateur.
Dans ce livre.